Chapitre 9. Claude rentra chez lui absolument découragé. Il s'enferma dans sa chambre et s'y promena de long en large, essayant de maîtriser les sentiments tumultueux qui l'agitaient. La réserve prudente de l'éditeur, qu'il traitait de duplicité, le révoltait presque autant que les procédés d'adaptation du signor Zambali. Il n'admettait pas que même dans son propre intérêt, on pactisât avec une déloyauté manifeste. À cet âge, on est absolu, on ne conçoit pas la nécessité de certains accommodements. Claude se sentait sur le point de jeter le manche après la cognée. L'ironie de sa mésaventure l'accablait. Tandis qu'il perdait son temps à des démarches parfois humiliantes et qu'il s'exposait à des rebuffades journalières, sa composition s'éditait sans qu'il en sût rien, un autre en récoltait l'honneur et le profit dans la plus complète sécurité. Le souvenir de ses courses persévérantes et inutiles des dernières semaines, de son espoir toujours trompé et toujours renaissant, de ses châteaux en Espagne, du joyeux entrain avec lequel il avait compté sur la journée présente, le faisait sourire amèrement. Son travail, son temps, son courage, tout était perdu. Il ne lui restait qu'un manuscrit inutile et une expérience chèrement acquise qui ne lui servirait à rien. Il tira le manuscrit de son portefeuille, l'ouvrit et se mit au piano. Il joua sa bagatelle lentement, tristement, pour en prendre congé, puis il plia les deux feuillets couverts de notes, les considéra une minute et les jeta dans la cheminée où languissait un petit feu de charbon. La flamme sembla hésiter, lécha le bord de la feuille, puis s'éleva tout à coup, et l'instant d'après, il ne restait des espérances de Claude qu'un petit tas de cendres grises. Il demeura longtemps absorbé dans sa rêverie, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur le feu. Tout à coup, il se leva avec une soudaine énergie et reprit sa promenade fiévreuse à travers la chambre. « Ah, mais je ne me rends pas encore !» s'écria-t-il. « Mon travail est perdu. Eh bien, je recommencerai. Je me ferai un nom, je le jure. Sans argent, sans coterie, même sans éditeur, je percerai. Comment ? Je n'en sais rien. J'attendrai, pourvu qu'Olive seulement consente à attendre avec moi. » Tour à tour, et comme par grandes vagues qui s'écroulaient l'une sur l'autre, le découragement et l'espoir se succédaient en lui. Cependant, la résolution qu'il avait prise d'attendre était comme un coin de terre ferme sur lequel il pouvait poser le pied. « On dit, pensait Claude, qu'il faut quelquefois perdre du temps pour en gagner. J'en ai perdu déjà, j'en perdrai encore. Une année, voilà mon enjeu. Je guetterai toutes les chances qui passeront à ma portée et je finirai bien par en attraper une. En attendant, je ferai du métier, je copierai de la musique s'il le faut. » Durant le dîner, Olive lui fit 1000 questions sur la matinée musicale, sur Miss Capel, sur Tom. À la brièveté de ses réponses, elle soupçonna quelque incident désagréable. « Venez donc voir mes jacinthes, » lui dit-elle quand ils rentrèrent au salon après le repas. L'embrasure de la fenêtre où se trouvait la jardinière était encadrée par des péridots et formait une niche très commode pour un instant de tête-à-tête. « Qu'avez-vous ? » fit Olive à demi-voix en se penchant sur ses fleurs. « Tous mes plants sont à volo, » dit-il, « mais n'importe, j'en ferai d'autres. » En quelques mots rapides, il lui exposa la situation. « Mais c'est abominable ! » s'écria-t-elle, « c'est un vol manifeste ! Après cela, vous êtes entièrement découragé, n'est-ce pas ?»« Découragé, non, je recommencerai, voilà tout. » « Votre entêtement est inconcevable, » fit-elle en lui tournant le dos. Claude, ainsi congédié, s'éloigna. Il se jeta dans un fauteuil et, prenant un journal, feignit de lire pour cacher son irritation. Était-ce parce qu'il avait échoué qu'Olive le désertait ? Il l'aurait cru plus généreuse. À l'avenir, il lui cacherait ses déceptions. Mais quand viendrait le bulletin de sa première victoire, il le lui montrerait en disant « Mon entêtement a réussi, vous voyez ? » Après tout, quelle raison avait-elle de croire en lui ? Quelle preuve lui avait-il donnée de son talent ? Si elle ne possédait aucun sens musical, pauvre petite, ce n'était pas sa faute. Elle avait tant d'autres qualités charmantes. D'ailleurs, Olive apprendrait à supporter la musique, qui sait, peut-être, à l'aimer, quand la musique, au lieu de représenter pour elle tous les ennuis de la vie, lui parlerait d'une tendresse constante et protectrice, de l'amour de son mari. Le lendemain, Claude résolut de rencontrer Olive quand elle rentrerait de ses leçons. Il se mit donc en embuscade et rejoignit la jeune fille au tournant de Beaumont Street. Elle l'accueillit avec une certaine froideur. « Vous me boudez, dit Claude, je cherche à deviner en quoi j'ai pu vous déplaire. » Elle tarda à répondre. Les yeux baissés, elle jouait avec le gland de son parapluie. Enfin, elle leva la tête, ses lèvres tremblaient légèrement. « Vous refusez de faire pour moi le plus petit sacrifice, » dit-elle. Claude sourit avec un peu d'ironie. « Renoncer à ma vocation, c'est là ce que vous appelez un petit sacrifice ?»« Ah, si vous vouliez entendre raison, » s'écria-t-elle, « vous êtes dans une impasse, vous n'en sortirez jamais à moins de revenir en arrière. C'est votre obstination qui vous retient. » L'insuccès a toujours tort, fit Claude tristement. « J'ai perdu ma première partie, mais est-il très généreux à vous de me le rappeler ? Me voici prêt à engager la seconde avec un nouveau courage et un nouvel espoir, si seulement... »« Vous ne réussirez pas davantage, » interrompit-elle d'un ton plaintif. « Vous vous déclasserez, voilà tout. Dans un an d'ici, vous en serez au même point, avec des habits râpés, les joues creuses et l'air désespéré. » « Aimable prophétesse, dit Claude en riant, vous n'avez donc pas la moindre foi dans mon étoile ?»« Pas la moindre. Comment, avec tant de bon sens sur d'autres points, pouvez-vous être aussi chimérique? Avec votre éducation et toutes vos ressources, vous pourriez devenir n'importe quoi. »« N'importe quoi, répéta Claude, c'est une profession que je n'aime guère. Voyons, Miss Beaumaris, nous tournons dans un cercle. Parce que j'ai échoué jusqu'ici, vous en concluez que le succès est impossible, tandis qu'au contraire, chaque obstacle surmonté me rapproche du but. Votre persévérance est bien mal placée, murmura Olive. Qu'en savez-vous? Je vous dis que j'en suis très sûre, vous perdez votre temps. Du moins, j'aurais fait mon possible pour vous décourager. Vous pouvez certainement vous rendre cette justice. Olive, ma chère Olive, soyez donc raisonnable. Ils s'arrêtèrent tous deux, parvenus à l'extrémité de la rue, et revinrent lentement sur leurs pas. Le succès, reprit Claude, n'est qu'un poinçon qui constate la valeur du métal sans l'augmenter, mais puisqu'il vous faut des preuves, je vous en donnerai. Si je réussis, que direz-vous? Vous ne réussirez pas, répondit-elle. Claude ne put réprimer un mouvement d'impatience. Olive croisa les deux mains d'un air résigné et reprit « En face de votre entêtement, toute discussion devient impossible. Brisons-la, s'il vous plaît. » Ils étaient à 50 pas de leur porte. Claude ne put s'empêcher de faire une seconde tentative. « Olive, dit-il gravement, si vous ne pouvez vous réconcilier avec ma vocation musicale, n'y songez plus, c'est tout ce que je vous demande. Vous pourrez vous imaginer que je suis agent de change ou fabricant de savon ou tout ce qu'il vous plaira. Je ne vous parlerai jamais de musique tant que ce sujet vous sera désagréable. Mais vous espérez constamment qu'il me deviendra agréable et vous serez constamment déçu, répondit Olive avec une certaine mélancolie. Je déteste la musique, je la détesterai encore davantage quand elle se mettra entre vous et moi. Je suis non pas obstinée, mais tenace, très tenace. Nous serions malheureux l'un et l'autre. Là-dessus, comme ils arrivaient en face du perron de Miss Picknell, Olive tira sa clé de sa poche et la mit précipitamment dans la serrure pour couper court à ce peu satisfaisant entretien. Sa conclusion était sage peut-être, mais Claude refusa de l'admettre comme définitive. Si Olive avait cru en lui malgré tout, comme certaines femmes savent le faire, Claude aurait été moins fiévreux, moins pressé d'arriver au but par le plus court chemin. Mais il ne se sentait aucun droit à cette confiance implicite. C'était par un succès éclatant qu'il fallait conquérir Olive. Le moyen d'arriver devint son idée fixe, il y rêva nuit et jour, bâtissant 1000 plans qui tous péchaient par la base, et sans cesse obligé d'en revenir à son premier projet, économiser et attendre. Par bonheur, l'attente n'est pas nécessairement oisive. Claude trouva un adoucissement à ses ennuis en mettant au jour plusieurs mélodies qui le hantaient. La mélodie, cette forme seule vraiment populaire de la musique, traitée de haut par les techniciens et les raffinés, mais toujours chérie de la foule, la mélodie était le fort de Claude, son don spécial. Au collège déjà, les airs qu'il inventait, sans avoir cette banalité qui tourne à l'obsession, se répandaient comme un fluide subtil, on les entendait fredonner dans les cours, dans les corridors. Même le bouvreuil du portier en sifflait des fragments. Claude savait que la faveur du public lui viendrait par là tôt ou tard. Le difficile était d'obliger le public à prêter l'oreille un instant. L'occasion ne manque jamais à ceux qui sont déterminés à la saisir, se répétait-il chaque jour. Mais l'occasion se faisait attendre. C'était la semaine de Noël. La neige tombait lentement, chargée de suie et noire déjà, avant d'arriver sur la chaussée. Malgré la boue, le froid, le brouillard, les rues étaient très animées, chacun courant à ses achats ou à ses plaisirs. Les étalages des marchands de comestibles et des bouchers débordaient jusque sur le trottoir, panachés et enguirlandés de houx à baies rouges, de lierre et de gui. À voir ces immenses quartiers de viande, ces montagnes de légumes et d'oranges, ces bataillons d'oies, de pintades, de dindes, de poularde, ces entassements de gibier, on eût pu croire que la ville préparait les approvisionnements d'un siège. Chose étrange, dans la protestante et pieuse Angleterre, les fêtes de Noël ressemblent plus à une saturnale gastronomique qu'à une solennité chrétienne. On mange, on boit, on danse, et l'on envoie à ses amis des souhaits de joyeux Noël et de bonne digestion. Ce dernier vœu n'est pas superflu, car la quantité de plum pudding et d'autres lourdes friandises qui se consomment entre le 25 décembre et le dernier jour de l'an suffirait à rendre à jamais dyspeptique une nation moins robustement constituée. Olive, contre le gré de Miss Picknell, qui n'approuvait pas les superstitions vulgaires, était descendue un soir à la cuisine pour remuer trois fois solennellement la pâte du pudding de Noël que la cuisinière pétrissait dans une vaste terrine. Cette cérémonie, si elle est accomplie avec le respect nécessaire, porte bonheur aux jeunes filles. Comme Olive remontait l'escalier, elle vit par la porte du salon restée entr'ouverte Claude qui se promenait de long en large d'un air absorbé. Elle entra doucement, il ne s'aperçut pas de son approche, car il venait de s'arrêter dans l'embrasure de la fenêtre pour regarder les flocons qui tombaient en tournoyant à la lueur jaune des réverbères. Il avait jeté sur une chaise le journal qu'il venait de parcourir. Olive le prit en froissant à dessein le papier. Claude tourna la tête. « Bonsoir, Miss Beaumaris, » fit-il d'un ton distrait en jouant une marche sur la vitre. « Causons, » dit Olive qui s'assit près du feu. « J'ai besoin de vos conseils. Miss Picknell m'a donné carte blanche pour décorer le salon le jour de Noël. Voulez-vous qu'à nous deux nous fassions un petit plan ?» Claude s'approcha de la cheminée sans grand empressement et à peine eut-il fixé ses yeux sur le feu qu'il retomba dans sa rêverie. Olive toussa et il tressaillit. « Je vous demande mille pardons. Vous disiez... « Qu'est-ce qui vous rend si distrait ce soir ?» Il ne répondit pas et reprit sa promenade, les mains croisées sur le dos, les yeux baissés vers le tapis. Olive se leva et vint à lui. « Vous avez une idée ! » s'écria-t-elle. « Cela m'arrive de temps en temps, » dit-il en s'efforçant de sourire. « Vous allez faire une nouvelle démarche ? » « Peut-être. »« Qu'est-ce que c'est ? Dites-le-moi !» « Vous le saurez quand j'aurai réussi, » répondit-il gravement. Elle lui tourna le dos et revint à son fauteuil en faisant la moue. « Ne boudez pas, je vous en prie, » dit Claude déjà plein de remords. « Ce serait un mauvais présage pour mon entreprise. »« Que les présages soient bons ou mauvais, vos entreprises auront toujours le même succès, » répondit-elle sèchement. C'était un mot cruel. Claude, vivement blessé, la quitta sans ajouter une parole. Cependant, comme il était toujours prêt à excuser Olive, même à ses propres dépens, il reconnut qu'il avait manqué de courtoisie et que, par un léger effort, il aurait pu s'arracher à ses préoccupations. Il endura avec beaucoup de contrition la pénitence qu'Olive jugea à propos de lui infliger, en le tenant à l'écart et ne lui adressant pas la parole de toute la soirée. M. Ferrol était absent. Miss Bignell supposait qu'il passerait les fêtes à la campagne. Quant à M. Gibson, se trouvant légèrement enrhumé, il accusait la saison d'être meurtrière et voyait toute chose très en noir. Son hôtesse avait beau lui faire l'énumération de tous les rhumes dont il s'était heureusement remis, il refusait d'accepter ses encouragements. « Ce moment de l'année, dit-il, quand il se fut installé le plus près possible du feu, dans un large fauteuil, ayant à sa portée un petit guéridon, sur lequel Miss Tabitha venait de placer un grog préparé de ses propres mains, ce moment de l'année est de tous le plus mélancolique pour un homme solitaire comme moi. Que suis-je ici, Miss Picknell, un simple locataire, heureux de vivre sous ce toit, malgré les 6 étages qu'il me faut gravir journellement ?» Mais le moindre accident peut m'en chasser. Les conforts qui m'entourent, il se tourna vers Miss Picknell, les attraits qui charment mes yeux. Ici, il dirigea ses regards vers le tapis pour ôter à cette remarque ce qu'elle pouvait avoir de trop direct. Toutes ces choses sont précaires. D'un jour à l'autre, elles peuvent m'être enlevées. Monsieur, dit Miss Habita, il ne tient qu'à vous d'être longtemps mon locataire. Vos habitudes sont paisibles, vous ne fumez pas, vous ne jetez pas les portes, et, à part une tendance à l'exagération pour ce qui concerne le nombre de vos étages, votre conversation ne mérite aucun reproche. Nous passerons encore ensemble, j'espère, bien des fêtes de Noël. » M. Gibson secoua la tête. « 1000 choses peuvent survenir, fit-il. Un célibataire est nécessairement nomade et exposé à toutes les vicissitudes. » Que mon rhume, par exemple, tourne en bronchite, me voilà livré à des soins mercenaires. Il est vrai, dit Miss Picknell, en rougissant ainsi que l'occasion l'exigeait, il est vrai que les convenances ne me permettraient pas de vous soigner moi-même. Voilà pourquoi je dis que ma position est précaire, reprit M. Gibson. Je la trouve même déplorable quand j'y réfléchis. Mais n'y a-t-il pas de remède? Voyons, Miss Bobaris, n'y a-t-il pas de remède? « C'est à Miss Picknell qu'il faut demander cela, » répondit Olive, sans quitter des yeux sa broderie. M. Gibson soupira et se tourna vers son hôtesse avec un regard interrogateur. Celle-ci ne semblait pas disposée à répondre. Elle penchait la tête en regardant les dépouilles capillaires enfermées dans son bracelet. C'était à ce talisman qu'elle en appelait dans toutes les circonstances embarrassantes. Il paraissait lui murmurer de mystérieux conseils. Le silence dura assez longtemps pour devenir pénible. Claude avait les yeux fixés sur Olive, qui tirait l'aiguille avec une rapidité croissante. Enfin, Miss Picknell se leva majestueusement. « Je n'ai pas de remède à suggérer à M. Gibson. C'est à lui, me semble-t-il, de trouver le moyen d'améliorer sa situation, puisqu'elle lui paraît vraiment déplorable. » Autrement, à quoi lui sert d'être un homme et d'avoir à sa portée toutes les ressources que l'organisation sociale et les convenances accordent au sexe fort ? Ayant ainsi parlé, Miss Picknell plia son ouvrage après avoir jeté un coup d'œil à la pendule. « La sagesse parle par votre bouche, comme toujours, » murmura M. Gibson. « Miss Beaumaris est-elle du même avis ?»« Oh, que j'ai sommeil !» répondit Olive en bâillant derrière sa main. Claude se sentit soulagé en la voyant si indifférente. Et bien qu'elle lui eût dit bonsoir d'un ton très froid, il monta chez lui le cœur léger, non pour dormir, mais pour méditer encore sur la résolution qu'il avait prise.